Bonne fin de soirée, Clément Lebrun. Rendez-vous évidemment dimanche prochain.
France Musique.
Le dimanche est un jour particulier pour notre puzzle à la Brévée. C'est le moment où la musique qui nous est parvenue par bribes en semaine est jouée d'un seul souffle et prend donc une toute autre dimension. C'est vrai du Chant des Barbares, pièce concertante de François Meymoun, qui a fait entendre jour après jour ses 5 mouvements. Cette nouvelle composition de François Meymoun illustre très bien l'étroite collaboration qui peut surgir sur plusieurs années entre un interprète et un compositeur, ici en l'occurrence l'altiste Christophe Desjardins, et le compositeur François Meymoun. Le portrait de ce soir sera par conséquent le reflet de ce dialogue constructif entre les deux parties, et c'est la voix de Christophe Desjardins qui va d'ailleurs préluder ce portrait de François Meymoun.
Qu'est-ce que ça veut dire jouer de la musique aujourd'hui? Est-ce que c'est pas d'abord jouer la musique d'aujourd'hui? C'est une évidence au 19e siècle, on jouait la musique de son temps. Aujourd'hui, on a un panel de répertoire qui couvre 4 siècles. Et donc, les choix sont beaucoup plus larges. Mais pour moi, c'est vraiment important de dire que cette musique d'aujourd'hui nous dit quelque chose de notre temps.
Vous jouez souvent des concertos, Christophe? Des concertos écrits par des compositeurs d'aujourd'hui, je veux dire.
Et pas beaucoup. C'est vrai que la forme de concerto, c'est une forme. Le concerto pour alto est une forme qui fait peur aux compositeurs, aux chefs d'orchestre, parce qu'il y a un équilibre très délicat à obtenir entre la puissance de l'orchestre et celle de l'alto, qui n'a pas le brillant de ses collègues violon ou violoncelle. Mais qui n'en a pas moins des qualités fort intéressantes pour les marier avec les différents timbres d'un orchestre. Mais ça demande une alchimie très savamment dosée.
Alors là, François Meymoun a bien relevé le défi parce qu'on l'entend bien, cet alto. Il n'y a pas de problème d'équilibre, justement, de balance. Et pourtant, l'orchestre est quand même très épais et très puissant. Il sonne, cet orchestre.
C'est vrai qu'il a réussi d'autant mieux que c'est sa première pièce d'orchestre. Donc c'était vraiment peut-être un double pari. L'orchestre est puissant, il est quand même divisé en groupes. C'est-à-dire qu'il respecte beaucoup les familles d'instruments, les bois, les cuivres, les cordes et les percussions. Il y a un très très grand rôle de la percussion, en particulier des timbales, d'une très grande virtuosité. Et très utilisé de manière très contrapuntique avec le jeu de l'alto. Mmh. Le plus grand danger de l'écriture pour alto, enfin d'un concerto pour alto, ce sont bien sûr les violons et les altos de l'orchestre qui sont dans un registre supérieur ou égal et donc qui mangent vraiment la sonorité de l'alto.
Christophe Desjardins a déjà eu l'occasion de jouer la musique de François Meymoun. Il a été l'interprète de sa sonate pour alto, baptisée elle aussi le Chant des Barbares. Pour François Meymoun, le Chant des Barbares s'apparente à un cycle ouvert qui comprend déjà 2 pièces et qui est amené à s'ouvrir davantage encore.
C'est Christophe qui est à l'origine du première commande du GMEM, une sonate pour alto. Puis j'ai composé ce concerto que j'ai dédié à la mémoire de mon beau-père Hector Haydan qui nous a quittés pendant la composition. Et l'œuvre, pendant que je la composais déjà pour alto, ça arrive parfois, on sent que elle va devenir autre chose. C'est-à-dire, elle existe en tant que telle, mais on sent un potentiel. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, la chance de faire ce projet pour vous, j'ai tout de suite proposé ça parce que j'y croyais tout simplement. Voilà, et j'avais envie de faire ça. Donc, c'est assez magique en fait, hein, le fait de sentir qu'une œuvre peut en générer une autre. Et d'ailleurs, je dois vous dire, c'est pas pour l'étirer sans arrêt, mais j'aimerais faire une version aussi pour alto seul et que les percussions. D'ailleurs, c'est une chose qui s'entend un peu dans l'œuvre. Il y a vraiment un dialogue entre l'alto et les percussions. C'est d'ailleurs ça, le chant des barbares, en fait. Le chant, c'est l'alto, et la tribu de barbares, c'est l'instrumentarium de percussions. Cela dit, les choses ne sont pas si simples, puisque le thème très chantant, passe dans le côté indéterminé des timbales, et la sauvagerie des percussions se transmet aussi à l'alto, évidemment. Et l'orchestre est à la fois un orchestre de chambre, de musique de chambre, et en même temps, toute la puissance sonore de la masse orchestrale est sollicitée.
Pourquoi ce titre, alors?
Alors, Pour plein de raisons. D'abord, je pense que tout artiste interroge la part de sauvagerie et de barbarie qui est en elle. Mais c'est pas la barbarie au sens négatif du terme. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a de primaire et de quelle manière on travaille cette. C'est un peu comme un bloc de marbre en fait. On a cette solitude d'une force primaire, primate un peu. Et en fait, elle est évocatrice. Mais l'intérêt du titre, s'il y en a un, c'est la réunion des deux termes. Qui sont simplement en apparence antagonistes. Comment chante la matière brute? Qu'est-ce que c'est qu'une matière brute qui chante?
C'est pas comme ça. 1 et 1, 2, 1, 1, ta 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 tam 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 ta 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Est-ce qu'on peut évoquer maintenant la relation entre les parties et le tout? Est-ce que vous avez plus pensé la pièce comme un ensemble que vous avez ensuite subdivisé en 5 parties, 5 tableaux, ou est-ce que vous avez pensé 5 parties différentes? Je crois que c'est la première version.
Non, j'ai pensé en ensemble, vu le projet de l'œuvre, c'est un fil tendu. Cela dit, tout de suite, j'ai intégré le fait qu'il y avait 5 parties. Et donc, ces 5 moments existent. Mais ils ne sont pas forcément des moments thématiques, mais parfois des moments de distribution. Par exemple, le deuxième moment, c'est le thème chantant de l'alto qui passe au timbal. Donc, il y a une continuité si on écoute l'œuvre d'un bout à l'autre. Mais d'un point de vue de la composition, d'un point de vue de la réalité de la contrainte proposée, il y avait effectivement un cahier des charges qui était rempli.
Le 7 mai a été un jour important dans l'existence de François Maymoun. Il assistait avec beaucoup d'enthousiasme à la création de sa toute première pièce d'orchestre. C'était un jour de mai ensoleillé, l'un des rares de ce mois, plutôt arrosé. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France étaient conduits ce jour-là, salle colonne à Paris, par le chef néerlandais Jurien Hempel, à leur côté donc Christophe Desjardins. François Maymoun, le chant des barbares. Christophe Desjardins, soliste du concerto en miniature de François Maimoun, Le Chant des Barbares. Une page emmenée par une énergie certaine. Le chef Jochen Hempel s'est dit d'ailleurs impressionné à la fois par la virtuosité de l'orchestre et les défis posés par la partie soliste et relevés évidemment par Christophe Desjardins. À l'issue de l'enregistrement, mené tambour battant, tout le monde était satisfait, le compositeur, le chef d'orchestre, le soliste et les musiciens de l'orchestre. Un grand merci au passage à notre équipe de prise de son, Yves Baudry, Adrien Roch et Michel Gassic. Mise en onde musicale, Alice Legros. Coordination, Justine Merniac. Le moment est venu de suivre François Maimoun dans son atelier de compositeur. Une visite ponctuée par quelques-unes de ses réalisations dans un domaine qui lui est cher, celui de la musique de chambre. Composer au piano, à la table, à l'ordinateur?
Non, je compose 95% à la table. Et le piano me sert à vérifier certaines choses. Je dois dire que le piano est une chose très inhibante pour composer, de mon point de vue. Que c'est ce que disait Glenn Gould, c'est que les doigts donnent des idées toutes faites. Donc le piano pour vérifier, c'est très bien. Cela dit, le thème du Chant des Barbares m'est venu en improvisant au piano.
Ah.
Donc je ne me prive de rien. Mais le piano, comme la machine, comme composé à l'ordinateur, quelque chose à la fois très contraignant du fait d'une trop grande liberté.
Que vous improvisez au piano, vous le faites quotidiennement? Alors ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que il arrive que vos compositions jaillissent d'improvisation?
Oui, par exemple ici, il y a eu une période dans ma formation quand j'étais au conservatoire où je n'ai fait qu'improviser. Pendant quelques années, je n'ai composé que des extraits, que des bouts d'œuvre, et je ne faisais qu'improviser. Mais je savais que c'était transitoire, et je savais que c'était un moment, ça durait quelques temps. Et maintenant, l'improvisation, en fait, on improvise quand on compose. C'est-à-dire, quand je compose j'imagine une œuvre, moi j'essaie une solution dans ma tête, après j'en essaie une autre, et j'écris quand c'est fait. La dichotomie entre improvisation et composition est très artificielle. Et moi je passe mon temps à improviser, simplement c'est pas une improvisation qui s'entend, mais j'improvise dans ma tête.
Où en est François Maimoun, votre pratique instrumentale?
Elle est vraiment que pour mon propre plaisir. Mais je n'ai jamais eu de pratique publique instrumentale, si ce n'est qu'à un moment j'ai pas mal dirigé. J'ai entre 22 et 28 ans.
Vous aviez créé un ensemble, non, me semble-t-il?
Oui, j'ai eu ces velléités-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de diriger ma musique. Et ça, je pense que, non pas par plaisir doublement narcissique, mais ce qui m'intéresse, c'est de diriger les opéras que j'aimerais faire. Parce que c'est vraiment une application totale. On est au cœur du processus.
La scène vous attire énormément, le travail dramatique.
Oui, énormément. En fait, ce qui me plaît dans le théâtre, c'est cette sorte de rideau qui ne se lève jamais totalement. Et parfois, les gens qui n'aiment pas le théâtre, finalement, quand on les entend parler, En général, ils vous décrivent la scène comme la suite des couloirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité. Et moi, ce qui me fascine dans le théâtre, c'est ce deuxième rideau qui ne se lève jamais totalement. Et je dois dire que c'est très fécond pour moi dans mon travail, parce que j'y pense beaucoup. Je pense beaucoup à la scène, effectivement. Quand je compose, j'ai le tableau je me fais un dessin de la disposition des musiciens. J'aime savoir pour quelle salle je compose, pour quel interprète j'écris. Tout ça fait partie d'une sorte de film un peu que je crée.
L'espace, on dit toujours que c'est le temps que gèrent les compositeurs, mais l'espace importe beaucoup pour vous.
C'est ça. L'espace et l'inquiétude que cette distance entre la scène et le réel génère vraisemblablement en moi, c'est-à-dire la scène, est-ce que c'est un espace réel, jusqu'où c'est un espace réel, pourquoi une scène, pourquoi on élève une scène. Alors on réfléchit beaucoup depuis un siècle sur la scène, mais au fond, même si on fait des scènes circulaires, même si comme Xenakis on multiplie, on dispatche le mystère de la scène est toujours là, et vous allez toujours à un moment regarder, chercher où est la scène.
Du siehst heu reizend aus, dein Hort mit einem Morgen frische.
Ich komme aus dem Mond.
Mir ist täglich, das seh ich dich zum allerersten Mal.
Ist schrecklich.
Du bist gut.
Vögel aus mir.
Je comprends mieux votre intérêt pour Artaud et aussi pour Francis Bacon, parce que là, la frontière entre le réel et l'irréel est assez intéressante.
Oui, c'est un très beau projet. Alors, c'est un projet qui est venu d'Olivier Mantelli pour les Blues du Nord. C'est une œuvre qui m'est commandée par Jean-François Dugosse. Et c'est Michel Archimbault qui a écrit un livre passionnant d'entretien avec Francis Bacon, qui a donné une pièce de théâtre pour Avignon et qui a donné un livret. Et maintenant, c'est en train de devenir un opéra. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'idée d'Olivier Mantelli, c'est d'abolir les frontières entre les métiers de l'opéra. C'est-à-dire qu'il veut vraiment créer un groupe, le metteur en scène, l'écrivain, le librettiste, le compositeur, et que toutes ces parties communiquent entre elles. Ce qui n'est pas simple du tout, il faut dire la vérité, mais ce qui est plus que prometteur, ce qui est fertile.
Un moment.
Moi, je pense que l'opéra, depuis Loulou, depuis Berg, est passé à côté de sa contemporanéité, des drames des deux guerres, des problèmes de la colonisation, je parle pour la France. Je pense que l'opéra est passé à côté de ça et qu'il a du mal à s'en remettre. Et je crois que quand les directeurs d'opéra seront peut-être moins inquiets d'intégrer le contemporain, mais pas la musique, c'est-à-dire l'actualité.
La société contemporaine.
Exactement, l'actualité, c'est-à-dire avec toute la part de refoulement, d'angoisse qu'il peut y avoir sur scène, comme Mozart le faisait avec ses opéras. Alors après, il maquillait ça comme il pouvait pour pas trop choquer le monde, mais c'était quand même ça ce qui se passait. Et ben, je pense qu'on sera dans la bonne voie. Et la question de Francis Bacon, c'est la question de la violence au XXe siècle, qui est quand même...
Pas anodine.
Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. En tout cas, le XXe siècle a été violent. Les autres arts, la peinture, la littérature, la poésie en ont porté acte, quitte à le dépasser, la musique et l'opéra doivent le faire et on ne l'a pas encore tout à fait fait.
Thank you. La voix fait souvent irruption dans la musique de chambre de François Meymoun, la voix et le texte de ses auteurs fétiches, parmi eux Antonin Artaud.
C'est un fil continu, c'est-à-dire que ça a commencé. Ma première œuvre éditée était une sorte d'hommage à Artaud. Après, j'ai composé Tara sur les Tarots Maras. Après, j'ai fait mon quatrième quatuor à cordes avec des poèmes de Géraldine Haydan, de Antonin Artaud et de Rimbaud sur la question de l'enfer. Il y a cette œuvre aussi. Disons que c'est un peu un fil conducteur, comme Paul Celan est un fil conducteur, comme Pollock est un autre fil conducteur, voilà, qui se déroule au fil de mon existence.
D'où vous vient cet intérêt pour la littérature ?
Alors je dois dire que Artaud, je l'ai entendu réciter par mon frère quand j'étais tout enfant, et il paraît que ça me terrorisait, les lectures d'enfant, donc il y a probablement quelque chose de très pulsionnel là-dedans, c'est-à-dire de musicaliser quelque chose que j'ai reçu certainement très tôt, et que je ne maîtrise pas, donc finalement j'en fais une musique et un objet pour les autres.
Astré dans la terre, mais des encastrés de l'être timide de la mer qui bave. La terre de charbon noir.
Après avoir esquissé un portrait d'Antonin Artaud, François Meymoun travaille en ce moment sur un autre auteur important pour lui, Paul Celan. La rencontre avec le Verbe de Celan devrait donner le jour à une composition nouvelle créée par l'IRCAM en 2017 lors de la prochaine édition du festival Manifeste.
Alors moi j'ai un point de vue un peu particulier sur Paul Celan, c'est-à-dire que Paul Celan est accolé à l'histoire de la Shoah, et je dirais réduit à l'histoire de la Shoah. Et on connaît la dispute presque religieuse entre Adorno et Celan se sont menés par distance, enfin pas directement, mais Adorno disant on ne peut pas écrire après Auschwitz, Celan écrivant en allemand après Auschwitz. Avec ce qu'il a vécu, c'était pas mince. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'art de la Shoah, de toute manière. Un vrai témoignage de la Shoah transcende la question de l'art. Et Celan est bien autre chose qu'un témoin Alors, il a témoigné, il témoigne de ça, la fugue de mort, évidemment. Mais c'est pour moi d'abord le poète de l'altérité, le poète de l'autre. Vous ouvrez n'importe quel livre, tout le temps, vous avez toi, tu, toi, tu. Et ça, c'est quelque chose qui est très émouvant, justement, enfin très émouvant, très prenant, parce qu'on sait d'où il vient, et on sait quelle force a ce tu, et cette poésie de l'altérité est pour moi vraiment fondatrice pour vouloir composer sur sa musique.
Augenblicke, wessen Winke, keine Helle, entworden aller Orten sammle dich still. Parmi
les œuvres en gestation dans l'atelier du compositeur, il y a donc cette pièce sur des poèmes de Celan, mais aussi deux concertos, l'un pour Vanessa Wagner, l'autre pour Marc Copé, et une nouvelle pièce d'orchestre pour l'Orchestre National de Bordeaux. À cette dense activité de compositeur, il faut ajouter celle de transcripteur et de responsable d'une collection d'ouvrages théoriques sur la musique chez Edam Musicae. Réalisation de ce portrait de compositeur, Françoise Cordet avec Xavier Lévesque et Soizic Noël. Il est 23h, l'heure de votre rendez-vous avec deux fauteurs de troubles, les seuls à être autorisés au tapage nocturne, Bruno Letort et François Bonnet, à vos risques et périls.